fasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le mardi 24 mars et dans 3 jours, je suis officiellement en vacances. Oh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis mais soulagée d'être en vacances. J'aime mon boulot, j'aime mes collègues, mais qu'est-ce que ça me soulage ne plus avoir à entendre les bruits de la photocopieuse et autres agrafeuses. Alors, un bruit que va peut-être commencer à connaître un certain Emmanuel Grégoire, élu maire de Paris depuis dimanche soir. Vous allez me dire qu'il va surtout entendre les Parisiens râler à longueur de journée dans Paris et les problèmes de circulation. Ça ne lui changera pas de l'union de la gauche. Parce que oui, rappelons qu'il a réussi à faire une union entre les écolos, les socialistes, les communistes et à gagner face à Rachida Dati et Sophia Chikirou. Alors faire entendre des communistes, des écolos et des socialistes, c'est pire que faire un plan de table pour un mariage. C'est mieux que n'importe quel épisode de l'agence. C'est une famille dysfonctionnelle qui se questionne sur qui a raison face à la dernière partie de Monopoly. En tout cas, suite à son élection, il a dévalé tout Paris en Vélib. Original, vous me direz. Moi, je dirais plutôt périlleux et dangereux. Après, c'est bien d'être engagé hein, et d'aller au bout de ses convictions, mais bon. Imaginez s'il avait été maire de Versailles, il aurait remonté les rues à cheval. Bref, c'est sûr que c'est pas le même enjeu que les Vélib. Les chevaux, c'est quand même plus difficile à mettre à disposition des habitants. Ça change au moins. Et puis, comme dirait un grand sage, le changement, c'est maintenant. Donc moi, je vais l'écouter. Je vais profiter du changement en profitant des vacances. Dans l'entretien de la matinale, Alice reçoit Benoît de l'Étoile, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. On parlera de l'événement L'Anthropologie va vous surprendre et de la première conférence sur la culture kanak. Dans la deuxième partie, Lia recevra Miss Andere pour le Zoom, chanteuse et pianiste ukrainienne exilée en France depuis 2022. On parlera de sa musique et de son parcours franco-ukrainien. Le Flash Info sera présenté par Tom, Grégory nous parlera série dans sa chronique Actu et Julie nous parlera de la tendance à tout photographier dans sa chronique Libre. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Eh bien, bonsoir Alice, bonsoir,
bonsoir
à notre invité Benoît.
Bonsoir.
J'espère que vous allez bien et Alice, je te laisse la main.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous Benoît de l'Étoile, donc au micro de Radio Campus Paris. C'est la 7e édition de l'événement L'Anthropologie va vous surprendre au musée du Quai Branly. Alors avant de parler spécifiquement de l'édition 2026, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur la genèse de ce projet? Comment est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce qu'il répondait à un besoin particulier?
Alors en fait moi je suis au musée du Quai Branly depuis novembre 2023, donc je n'étais pas là au moment où a été mise en place cette édition. J'ai participé à la dernière édition qui était sur le corps, qui était donc en 2024 dans l'année des Jeux Olympiques, mais il avait été créé donc si on calcule vers 2012 par là, avec l'idée justement qu'il s'agissait de faire découvrir une discipline pas toujours connue par le public et même par les étudiants, qui est l'ethnologie, l'anthropologie, dans le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Donc effectivement, c'était l'idée de faire venir au musée et de faire de découvrir, de ne pas adopter une approche, on va dire, universitaire ou une approche trop telle qu'on peut avoir dans des colloques, mais d'essayer de rendre ça accessible, y compris un travail sur la forme, et on va en reparler.
Tout à fait. Alors justement, là, cette année, c'est sur l'anthropologie. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec la définition du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, que j'ai trouvé sur internet. Donc, il décrit l'anthropologie comme l'étude générale de l'homme sous le rapport de sa nature individuelle ou de son existence collective, sa relation physique ou spirituelle au monde, ses variations dans l'espace et dans le temps, etc. Alors, je vous laisse déjà réagir à cette définition.
Alors, je sais pas. pas effectivement exactement, enfin la source de cette de définition, elle est intéressante et elle, je préfère en fait définir anthropologie par son origine. Anthropologie, ça vient de anthropos, c'est-à-dire effectivement c'est l'être humain et c'est l'être humain tel que le pensaient les Grecs, c'est-à-dire comme animal social et politique en fait, comme l'animal qui vit en cité, disait Aristote. Donc en fait l'anthropologie, c'est la façon d'être humain, c'est à la fois tout ce qui est commun aux êtres humains et en même temps comment est-ce que cette communauté s'exprime de façon très diverse dans les différents groupes humains à travers le temps et l'espace.
Et selon vous, c'est une discipline universitaire qui a un avenir devant elle ? C'est beaucoup
Alors,
d'actualité.
J'espère, parce que moi je suis anthropologue, je suis directeur de recherche au CNRS avant d'être au Musée du Quai Branly. J'ai beaucoup enseigné, j'ai des étudiants, des doctorants, etc. Donc j'ai d'excellents étudiants et étudiantes. Et donc je pense qu'il y a un avenir, effectivement, par rapport à ça. Et il y a un avenir, justement, pour une anthropologie qui est contemporaine. Et c'est un peu ce sens que veut avoir le changement d'ethnologie vers anthropologie.
Alors l'événement a donc lieu le week-end juste avant le lundi de Pâques, les 4 et 5 avril au musée du Quai Branly. Donc. Et cette année, la thématique se concentre autour du temps et des rythmes avec, je trouve, une prédominance de la musique. Est-ce que ça signifie que la relation entre les hommes et la musique, les sonorités, fait l'objet depuis tout temps d'une réelle connivence ? Et par extension, donc, d'un sujet d'étude à part entière ?
Alors, en fait, effectivement, il y a le terme de la musique est présente notamment autour de la question des rythmes. C'est-à-dire qu'on a voulu prendre rythme à la fois au sens propre, les rythmes musicaux, mais aussi au sens figuré et au sens du lien entre la musique et les mondes sociaux. Et en cela, c'est présent. Mais cette dimension musicale, on a essayé, enfin, comment dire, de la mettre en avant. Également pour communiquer avec nos différents publics.
La 7e édition donc, qui arrive prochainement est gratuite, ouverte à toutes et à tous, comme les autres années. Vous l'avez un petit peu dit en préambule, c'était une manière aussi de démocratiser l'anthropologie, l'ethnologie. Au programme, des grandes conférences, des conférences musicales et des mini-conférences avec différentes thématiques associées, mais aussi des projections, rencontres, concerts, lectures, commentaires d'œuvres, etc. Vous attendez tout type de public. Peut-être à la fois des connaisseurs des sujets d'anthropologie ou tout simplement des curieux des curieuses. Et pour ça, il faut réussir forcément à embarquer tout le monde. Est-ce que c'est difficile en tant que chercheur, chercheuse de vulgariser ces sujets-là ?
C'est-à-dire que je pense que c'est un devoir, nous, en tant que chercheurs. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était important d'essayer à la fois de faire des recherches de pointe. Et donc, forcément, quand on fait des recherches de pointe, on essaie d'être très précis, d'avancer, d'avoir un vocabulaire très précis. Et en fait, à la rigueur, il n'y a que quelques personnes qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, c'est important d'essayer de traduire, je dirais pas de vulgariser, mais d'essayer d'expliquer en quoi c'est important d'autres personnes. Et c'est justement un des rôles des musées. Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans des expositions que j'avais pu faire avant, ou d'essayer de présenter des travaux vers des publics divers, par des conférences, en essayant justement d'aller vers d'autres publics et d'expliquer en quoi ce qu'on fait est important.
Et alors,
vas-y, c'est passionnant, donc je vous écoute.
Parmi les conférences qui sont proposées ce week-end-là, il y en a une qui, pour la première fois, évoque la population autochtone des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, avec en titre une question principale: pourquoi les Kanaks ne fêtaient-ils pas leurs anniversaires ? Alors c'est vous d'ailleurs qui allez animer cette conférence le samedi matin, en interrogeant pendant 1h30 l'intervenant Emmanuel Cassareru, par ailleurs président du musée du Quai Branly. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en valeur, entre autres, cette population? Et c'est même avec cette conférence que le week-end va démarrer.
Alors, en fait, il se trouve que cette année, ce sont les 20 ans du musée du Quai Branly, qui a donc ouvert ses portes en juin 2006. Donc, on fête les 20 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce thème « Temps et rythmes » avec cette dimension de clin d'œil, réfléchir sur le temps, sur les rythmes sociaux et sur les rythmes individuels et collectifs. Et donc, finalement, l'occasion, la question que pose Emmanuel Casarerou en partant de la culture kanak dont il est héritier de par sa famille paternelle, en fait, puisque lui-même, il est né à Nouméa, il est d'une famille qui est née du côté de Wailou, qui est une région de Nouvelle-Calédonie sur la côte nord, dont on reparlera. Et en fait, donc il disait que justement, dans la culture kanak, les anniversaires ne sont pas très importants, les anniversaires de naissance en tout cas, c'est pas quelque chose qui existait auparavant, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas des dates de naissance précises. Et comme il disait récemment, beaucoup de grands-pères étaient nés le 1er janvier, parce qu'en fait, c'était la date que donnait la gendarmerie qui gérait en fait les Kanaks dans ce qu'on appelait les réserves, enfin en tribus, et qui attribuait une date comme ça approximative aux gens en donnant le 1er janvier. Donc du coup, l'anniversaire n'était pas quelque chose individuel, n'était pas quelque chose de fêté, de très important. C'est venu avec la colonisation.
Dans le petit descriptif qu'on peut lire justement sur le site du musée à propos de cette conférence, il est écrit que dans la culture kanak, l'individu n'existe jamais seul. Il est un faisceau de relations inscrit dans un collectif. Comment est-ce que ça se concrétise, j'allais dire presque au quotidien pour cette population autochtone?
Alors il faudrait demander à Emmanuel Gassarevou. Moi je ne suis pas spécialiste des kanaks. J'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années parce que j'avais écrit un livre et donc j'étais allé avec un grand anthropologue qui s'appelle Alban Ben. Ça, qui a travaillé sur les Kanaks, qui connaît ce travail. Mais en fait, l'idée, selon ce que dit Emmanuel Casarerou, c'est qu'effectivement, on ne glorifie pas l'individu, c'est la question des relations entre des générations et entre des personnes, y compris entre des familles, en fait. Et donc, les grandes cérémonies, plutôt que les anniversaires, sont les deuils. Et les questions de levée de deuil qui se font justement par des échanges de cadeaux qui sont très contrôlés entre différentes familles, entre les différentes familles qui sont impliquées, entre les parents du mort du côté paternel et du côté maternel. Et donc on invite à ces cérémonies toutes les personnes. Et donc c'est cette dimension collective finalement par rapport à laquelle prend sens le décès de l'individu.
Oui, c'est peut-être même dans ces moments collectifs que, oui, donc vous le dites, l'individualité ressort le plus et c'est là qu'il est le plus important, qu'il fait le plus sens, mais au sein de la communauté.
C'est effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, dans cet univers-là, alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Il faudrait demander aux chercheurs qui sont actuellement là-bas. Enfin, il y a forcément des choses qui ont changé. Mais effectivement, traditionnellement, en fait, on n'existait pas de façon isolée. On existait au sein d'un groupe et par les relations qu'on avait avec les uns et les autres. Donc cette idée, effectivement, de faisceau de relations qui est très différente de la conception de l'individu qui est né en Occident, dans toute une histoire différente.
Oui, justement, ça détonne par rapport à ce que nous, on connaît, où justement, il y a de plus en plus d'individualisme. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre en avant ce type de sujet, ce type d'études, dans un week-end grand public, finalement, pour que ça a contre-courant, finalement, avec ce qui se passe ces dernières années par chez nous, quoi.
Ça peut être vu comme ça, en effet. En tout cas, c'est l'idée, de façon générale, effectivement, de l'anthropologie. Et si on... Disons, la sociologie, en général, les gens vont travailler sur leur propre société et essayer de réfléchir et de comprendre comment elle fonctionne. Mais l'anthropologie, elle essaie de réfléchir de façon comparative, c'est-à-dire de dire, effectivement, tiens, chez nous, on fait comme ça, est-ce que c'est normal? Mais est-ce que c'est différent ailleurs? Et pourquoi est-ce que d'autres personnes vont réagir, vivre différemment. Et effectivement, à la fois dans le, d'un point de vue esthétique, du point de vue de la musique, par exemple. Là, par exemple, il y aura une conférence sur la question de tous ensemble mais pas en rythme, sur des cérémonies en Inde où en fait on a, les gens jouent ensemble mais ne cherchent pas à trouver une unité rythmique. Alors, c'est un ethnomusicologue qui vous expliquera ça, moi je suis incapable de le faire.
Ce sera passionnant, non, non, pas.
Mais c'est aussi comme ça du point de vue social. Donc effectivement, l'occasion de ce week-end, c'est de voir des gens, des chercheurs qui ont travaillé au Mexique, en Inde, au Brésil, qui vont présenter ça.
On va, en parlant de musique, on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après. On va écouter America de Jazz Lambeau. Call my name to leave and laugh and love again. I spend money and I milk my brain, but I don't wanna leave the house. I feel sorry for my life, waiting like a feather in the corner. I think I'm funny when I lie. What if I go to America? They call my name, I laugh and laugh and laugh again. I get jealous of my own fame, now I just wanna buy the house. Sorry for your life, crying like a jester in the corner. Just get some honey when you're down, why don't you go to America? See you upstairs in America. They call my name, they laugh and laugh and laugh again. I spend money and I fried my brain, now I just wanna burn the house. I feel sorry for my life, dressing like a king in a dumpster. I chased honey my whole life, what if it's there in America? What if it's here in America? What if it's not in America? Et vous avez écouté America de Jazz Lambeau.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Benoît de l'Étoile et Alice pour nous parler de l'événement L'Anthropologie va vous surprendre au musée du Quai Branly. Et ben, je vous laisse reprendre votre interview et votre discussion.
Oui, on parlait de la culture kanak qui va faire l'objet d'une conférence et l'ouverture de ce week-end. Voilà, la Nouvelle-Calédonie a fait partie, comme d'autres endroits, des colonies françaises à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse sur comment est-ce que cette colonisation française a tenté d'effacer ou de nier les richesses culturelles kanak et d'imposer sa propre vision sur un peuple aux coutumes très spécifiques?
Oui, alors comme je ne suis pas spécialiste moi de la Nouvelle-Calédonie, je travaille plutôt sur le Brésil, je travaille sur l'Afrique coloniale, mais en m'inspirant des travaux des autres, effectivement, la Nouvelle-Calédonie a pour caractéristique d'avoir été d'abord abordée par des marins français qui s'arrêtaient là, puis ensuite il y a eu des missionnaires, et ensuite il y a eu une colonisation, et ce qui a été fait à ce moment-là, c'est en fait de chasser ce qu'on a commencé à appeler les Kanaks et qui aujourd'hui reprennent ce terme de Kanak avec un K eux-mêmes dans des réserves de façon à laisser le reste de la terre pour être exploité par les colons qui étaient d'origine européenne, dont certains qui étaient des bagnards, etc., y compris des communards qui ont été envoyés là-bas, enfin toute cette histoire. Mais ensuite, effectivement, Il y a eu un rôle important de missionnaire, comme quelqu'un qui s'appelait Maurice Lennart, qui était un anthropologue et qui a étudié, en fait, et qui a commencé à étudier les langues kanak et aussi à enseigner, à apprendre aux gens à écrire dans leur propre langue. Et ce qui fait que, là, je parlais avec Emmanuel Xarero récemment, qui me disait qu'on a des lettres qui ont été écrites par des kanaks qui étaient envoyés en France pendant la Première Guerre mondiale et qui écrivaient depuis le front à leur famille dans la langue de Wailou, par exemple, qui est une des très nombreuses langues kanak. Je ne vais pas dire le nombre pour pas faire d'erreurs. Donc en fait, on a une très grande diversité. Il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de montagnes dans la Nouvelle-Calédonie et chaque vallée avait très souvent ses langues et ses cultures. Et cette diversité, elle a été très largement en fait invisibilisée et non vue par les colons. Mais en fait, le fait même d'être dans des réserves fait que beaucoup de choses se sont longtemps préservées, en fait, parce que les gens étaient isolés.
Alors, même si vous n'êtes pas spécialiste, j'ose encore une dernière question à propos de cette population autochtone. Est-ce que vous avez une idée des héritages qui peuvent rester? Alors, à la fois de l'influence qu'il y a pu avoir de la colonie française sur les populations et vice-versa, est-ce qu'il y a eu un transfert de culture?
Pour ça, il faudrait plutôt une émission de 3 heures.
Faire une émission de 3 heures sur la culture kanak, ça nous va très bien.
pour parler de ça, parce que là, c'est vraiment très important, mais de façon importante, en fait, il y a eu des mouvements kanak indépendantistes dans les années 80, il y a eu des moments de violence, il y a eu récemment encore des moments effectivement de violence très importants sur le continent. Et donc il y a bien entendu à la fois des appropriations et des conflits. Donc en fait, il y a eu la création après les accords de Nouméa qui ont mis fin aux violences des années 90 du centre culturel Jean-Marie Djibaou, du nom de ce leader indépendantiste kanak qui a été construit à Nouméa. Et en fait, Emmanuel Casarerou, actuel président du musée du Quai Branly, je l'ai connu quand il était directeur de ce centre culturel Jean-Marie Djibaou, qui a justement été créé pour être un espèce de point d'ancrage de la culture kanak, et y compris de l'art kanak. Donc il y a eu un mouvement qui a été fait pour retrouver tout le patrimoine culturel kanak de par le monde, et Emmanuel Casarerou avait justement été une des personnes qui ont fait cet inventaire. Donc cette importance de l'héritage culturel kanak, elle est aujourd'hui importante aussi pour les kanaks aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire là-dessus.
Vous diriez que l'anthropologie justement permet de regarder d'une manière différente ces populations, qu'elles soient kanaks ou autres populations autochtones?
Non, je ne dirais pas ces populations, parce que si vous dites ces populations, vous mettez à distance. Donc en fait, c'est comme ça qu'on concevait l'anthropologie autrefois. L'anthropologie, elle permet de regarder différence de façon différente l'être humain. Donc nous, et donc non pas justement en partant de l'idée d'une différence radicale, mais l'idée de comprendre effectivement, encore une fois, qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas les mêmes, on est différents. Mais l'anthropologie, elle travaille aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'à Paris ou chez des étudiants de je ne sais pas quel
de Radio Campus Paris, par exemple.
Dans la programmation, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est que le week-end propose des mini-conférences interactives et illustrées, donc à la fois pour essayer de comprendre, mais aussi de voir et d'entendre. Je rappelle là la thématique autour du temps et des rythmes.
Temps et des rythmes, on pourrait dire aussi, les deux. On a justement laissé l'ambiguïté, c'est le temps, les temps.
Et est-ce que justement cette façon de présenter des sujets d'études, donc avec des conférences, des mini-conférences illustrées et interactives, c'est une manière pour le public d'être en immersion?
On appelle ça les têtes chercheuses, mais en fait c'est justement essayer de rendre sensible, de permettre d'expérimenter par des images fixes ou des vidéos ou par des sons des éléments justement de ce que vivent d'autres personnes ailleurs. Et c'est un peu ce travail sur la forme qu'on a essayé de faire. Ce qui est nouveau cette année sont ces conférences musicales que vous évoquiez, en particulier avec un musicien béninois qui va venir, Yewe Yeton, qui travaille à partir de sons qui ont été enregistrés il y a presque 100 ans, en 1931, lors de l'exposition coloniale internationale de Vincennes, par des gens qui étaient venus, qui étaient des soldats coloniaux, qui étaient ce qu'on appelait des tirailleurs à l'époque, tirailleurs dahoméens, donc de l'actuel Bénin. Et Yewe Yeton a retrouvé en fait ces enregistrements sonores sur un rythme qu'il connaît, puisque c'est celui de sa région natale, et il réinterprète en fait ces rythmes aujourd'hui. Et là, c'est cette façon, effectivement, on va, de rendre vivant des choses qui étaient un peu des éléments morts qui avaient été enregistrés, des paroles, comme ça il y avait des disques. Mais donc toute cette espèce d'idée de rendre vivant et présent des éléments qui peuvent apparaître comme passés ou comme lointains, c'est un peu toute l'idée du week-end.
Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'avais aussi l'impression qu'il y avait une certaine, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais une certaine perspective mémorielle, parce qu'il y a aussi des archives sonores d'oiseaux, par exemple, parce qu'on sait que la faune et la flore, là, il y a d'autres archives, mais il y a aussi des choses qui sont en disparition. Est-ce qu'il y a une volonté avec ce week-end du 4-5 avril de... Voilà, c'est justement cette perspective mémorielle que j'évoquais.
C'est pas forcément un terme qu'on emploie. En tout cas, pour moi, la question, c'est de, je dirais, parler de rendre le passé présent, en fait, d'essayer de rendre. Et sur cette question, effectivement, des oiseaux, c'est une chercheuse qui travaille dans le Brésil, sur les gens qui font des concours de chants d'oiseaux avec un oiseau très particulier et qui a une espèce de folie. Et de qui se génère donc effectivement où on essaye de faire réciter à des oiseaux des chants vers un concours. Donc c'est une espèce de voilà de c'est cette dimension que va présenter cette anthropologue.
Et alors peut-être une dernière question, pourquoi est-ce que c'est important que ce soit spécifiquement le musée du Quai Branly qui investisse ce sujet de l'anthropologie, de l'ethnologie?
Parce qu'en fait le musée du Quai Branly, c'est un musée qui est consacré aux autres continents et aux relations entre l'Europe et les autres continents. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, en ce sens, l'anthropologie a été la forme savante privilégiée par laquelle on s'est relié en fait à ces autres continents, avec toutes les questions et toutes les ambiguïtés de cette histoire de l'anthropologie. Et précisément, la question du temps a été centrale là-dedans, parce que pendant longtemps, on a considéré que des gens qui vivaient en même temps que nous étaient comme s'ils étaient dans le passé, comme s'ils étaient, d'où le lien qu'il y avait à une époque entre la préhistoire et l'ethnologie. On disait finalement, les gens qui vivent à l'âge de pierre dans le Pacifique sont l'équivalent des hommes préhistoriques. C'était cette vision intellectuelle qu'on avait au 19e siècle. Donc on plaçait les gens dans le passé. Et l'accusation d'être retardés, attardés, non développés, elle prend en compte en fait la question du temps. Et donc prendre de front la question du temps, c'est aussi interroger ce rapport, cette façon de rejeter les autres en les rejetant dans le passé. Donc au contraire, on veut essayer de montrer comment on est dans un monde résolument contemporain et on a cette société différente, mais en même temps dans l'interrelation depuis très longtemps.
Merci, c'est passionnant.
Rendez-vous donc les 4-5 avril au musée du Quai Branly.
Oui. Venez nombreux, merci.
Et vous n'avez pas d'excuses parce qu'en plus c'est gratuit. Donc ouais. Voilà. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y être car je serai en vacances. Mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu à Radio Campus Paris. Et merci Alice pour cette interview. C'est tout de suite l'heure du Flash Info par Tom.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous. En France, après les résultats des élections municipales avant-hier, le climat est très tendu au sein du Parti Socialiste. Une réunion interne s'est tenue aujourd'hui. En cause, la stratégie d'alliance locale avec LFI. Plusieurs responsables pensent que ces accords ont brouillé le message du parti jusqu'à coûter des victoires. Ils critiquent directement la ligne défendue par le premier secrétaire Olivier Faure. Certains élus vont même jusqu'à réclamer son départ, comme le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Je cite, il faut qu'Olivier Faure démissionne, c'est un échec total. Et puis concernant le décès de Lionel Jospin annoncé hier par sa famille à l'AFP, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui que les obsèques se tiendront jeudi à 14h30 au cimetière de Montparnasse à Paris. Celles-ci seront rendues publiques après un hommage national rendu aux Invalides. À l'étranger, toujours dans la crise au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit se rendre vendredi en France pour une réunion avec ses homologues du G7. C'est son tout premier déplacement à l'étranger depuis le début du conflit perpétré par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février dernier. Depuis, la situation a évolué. Sur place, Marco Rubio doit surtout discuter du sort régional qui reste très très tendu. Et puis le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé hier à étendre la frontière d'Israël jusqu'au fleuve Litani au Liban. Alors que les troupes du pays mènent actuellement des frappes sur les ponts et les habitations, Israël considère cette région comme un bastion du Hezbollah. Le Liban est entré dans le conflit régional depuis le 2 mars. De l'autre côté, en Israël, des impacts de missiles ont été signalés à Tel Aviv, même si les dégâts restent limités selon les secours. De plus, selon l'Agence internationale de l'énergie, cette guerre pourrait provoquer la pire crise énergétique depuis des décennies. Environ 11 millions de barils de pétrole par jour seraient déjà perdus, un niveau jamais vu depuis les grandes crises des années 70. La situation du détroit d'Ormuz inquiète toujours autant les marchés mondiaux. Allez, un point plus léger pour terminer, du sport. En football, c'est semaine de trêve internationale. En revanche, chez les féminines, c'est Ligue des Champions et ça joue actuellement entre Wolfsburg et Lyon en quart de finale. Allez, ce sera la mi-temps dans quelques instants.
Merci beaucoup Tom pour ce flash info et tout de suite on va se laisser avec une petite pause musicale. On va écouter Lick It de Flo.
How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. It. You only live once, let the people see.
What? Leak it, too hot to keep it secret. My phone is overheating. Tomorrow might delete it, but tonight I'm gonna leak it. I'm feeling so conceited. My body's undefeated. I'm freaky like this beat is. So what? I'm gonna leak it. I'm looking in the mirror like, who the is this bitch? Oh, where it's me, my flesh is on.
L'équipe de Flo, c'est toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Greg.
D'abord, je me doute que la plupart des personnes qui nous écoutent sont trop jeunes pour connaître ce générique de série. Et en même temps, j'ai un espoir. Par exemple, moi, je suis capable de fredonner la flûte enchantée et pourtant, j'ai pas passé ma jeunesse à m'enfiler des schnapps avec Mozart. Ça s'appelle la culture. Bon bref, pour revenir à cette série super culte, il s'agit de Buffy contre les vampires, diffusée fin des années 90, début 2000, qui suivait le parcours d'une jeune fille tueuse de vampires.
Mais que se passe-t-il donc avec Buffy alors ?
Alors déjà, la semaine dernière, Nicholas Brendon, un des acteurs phares de la série, est décédé à l'âge de 56 ans. Bon, c'est certes très triste, mais c'est une autre nouvelle qui a affolé les fans, et en particulier les quinquas qui ont mis en surchauffe leur Facebook à force de posts mi-vénères, mi-dépressifs. En effet, Buffy contre les vampires devait faire son grand retour très prochainement via Hulu, une des plateformes de Disney. Sarah Michelle Gellar, héroïne de la série originelle et depuis icône de sa génération, avait confirmé sa participation, comme d'autres stars de l'époque. Cela faisait des mois que tous et toutes teasaient leur retour sur les réseaux, et un pilote, c'est-à-dire une sorte d'épisode test, avait même été tourné. Mais finalement, contre toute attente, Hulu vient d'annoncer l'arrêt brutal du projet.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce reboot ne verra finalement pas le jour ?
Ah ouais, tu dis reboot, toi. Ouais. Bon, remarque, c'est vrai qu'en français, c'est pas évident à traduire. On pourrait dire relançage ou ressuçage. Tiens, encore mieux pour une série de vampires. Et pour répondre à ta question, selon Sarah Michelle Gellar, très en colère elle aussi, ce ressuçage donc ne se fera pas à cause d'un des producteurs qui passait son temps à cracher sur la série en se vantant de ne l'avoir jamais regardée en entier. Bon, il y a aussi des rumeurs qui disent que l'épisode pilote, réalisé par la pourtant oscarisée Chloé Zhao, n'était pas assez concluant pour accrocher et les fans de la première heure et la nouvelle génération. Sarah Michelle, toujours elle, a d'ailleurs demandé au public de ne surtout pas regarder l'épisode s'il venait à fuiter. Je sais pas vous, mais moi ça me donne encore plus envie d'y avoir accès.
Du coup, faut-il vraiment ressucer 25 ans plus tard ?
Alors personnellement, j'aurais tendance à répondre « ça dépend de qui ?» Mais je pense que c'est la même chose pour les séries. Et c'est logique au fond, car on a pu garder une image totalement fantasmée de ce que c'était à l'époque, et surtout en 25 ans, on change. Pas certain qu'une mère de famille et chef d'entreprise croulant sous la charge mentale ait aujourd'hui l'envie de s'identifier à une gamine de 16 ans qui bute des vampires, aussi forte et féministe soit-elle. Et d'ailleurs, la plupart des séries qu'on a tenté de relancer, hein, comme Charmed, Gossip Girls ou Sex and the City, ont vite été arrêtées, ce qui peut laisser penser que la nostalgie ne fait plus forcément recette.
Donc on arrête de ressucer.
Bon, alors personnellement, j'aurais toujours tendance à dire « ça dépend ». Et a priori, il en va de même pour les séries, car malgré les récents échecs, de nombreux projets sont dans les tuyaux. On nous annonce entre autres le retour des séries Malcolm, Les Frères Scott ou Scrubs. Alors, il s'agit soit de véritables suites avec les mêmes comédiens et comédiennes, soit de réactualisation complète. Alors peut-être que ces nouvelles propositions sauront nous surprendre, et c'est ce que j'espère, hein. Mais avant qu'elles ne débarquent, je vous invite vraiment à vous refaire les saisons d'origine. Je me suis moi-même relancé dans Buffy, et je vous assure que c'est toujours aussi cool et moderne. Dès les premiers épisodes, on y parle féminisme, harcèlement et consentement. Les personnages sont super bien écrits et le scénario très bien ficelé. Comme quoi, il n'y a pas de règles, on peut encore trouver du plaisir, même en ressuçant 25 ans après.
Merci Greg pour cette chronique. Et je suis en train de me poser la question de si je vais pouvoir encore faire des émissions à Radio Campus après avoir fait ces relances.
Merci.
Tout de suite, c'est l'heure du Zoom avec Lia.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, lorsqu'elle chante, on la surnomme Miss Andere. En anglais, cela donne Miss On Fire. Cette artiste ukrainienne a seulement 17 ans. Contrainte de quitter son pays suite à l'invasion russe, elle vit désormais à Paris et ce soir, elle est en studio avec Lia. Bonsoir Lia.
Bonsoir et bonsoir Zlatan Nicheretova ou alors Miss Ardere. Tes chansons s'inscrivent dans un style pop-folk, mais plutôt dark, ça c'est toi qui le dis sur ta page Instagram. Certaines ont presque une dimension un peu mystique quand on les écoute. De quoi s'inspire ton univers musical ?
Alors bonjour, je suis très contente d'être là. Et oui, je fais du pop folk, plutôt sombre, plutôt dark, mystique, mystérieux, qui s'inspire premièrement du folklore ukrainien, des mythologies. Je suis fan de mythologie grecque surtout, mais slave aussi. De littérature comme The Secret History de Donna Tartt, qui est très sombre en ambiance. En fait, je mélange un peu les mouvements artistiques comme le baroque et l'impressionnisme. Et donc, c'est d'un côté dark et d'autre, il y a quand même les moments plutôt light, qui donnent peut-être de l'espoir. Et je pense que c'est ça. Et je m'inspire de la nature aussi.
Ça se ressent dans tes textes. De quoi parlent tes chansons ?
De beaucoup de choses. Par exemple, ma dernière chanson, Winter Song, qui est disponible sur les plateformes depuis le 6 février 2026. Je pense que c'est la chanson la plus personnelle que j'ai écrite. Et c'est la chanson qui parle en fait du fait de passer l'hiver et toutes les fêtes d'hiver, toutes les fêtes de Noël pas chez soi. Et ça fait déjà 4 ans que je les passe ici en France. La France me plaît beaucoup, mais quand même, c'est pas pour l'instant un endroit où je me sens vraiment chez moi. Et ma famille me manque beaucoup parce que quand même, les fêtes, c'est le moment qu'on passe avec la famille. Et je n'ai pas vu beaucoup de membres de ma famille depuis 4 ans.
Justement, tu es née, tu as grandi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. À quel âge est-ce que tu as commencé le piano et le chant ? Comment est-ce que tu as appris ?
J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans et initialement, je suis pianiste. Et puis, j'ai aussi chanté, j'ai appris le chant pendant mon enfance, mais ma première chanson est sortie sur les plateformes quand j'avais 13 ans, donc en 2021. Et c'est comme ça que j'ai commencé à un peu aussi découvrir cet univers contemporain.
Et cette chanson qui est sortie, qui s'appelle Non Moderne, si je ne dis pas de bêtises, elle avait déjà des sonorités pop, pas dark du tout, mais aussi un aspect beaucoup plus rock. Comment est-ce que ça a évolué, tes créations ?
Alors, c'est très intéressant qu'on parle de Non Moderne, ça fait longtemps. Non Moderne, c'était la première étape, peut-être mon premier essai de découvrir ce nouveau univers. Et c'est vrai que c'est rock. J'ai compris un petit peu après que pour l'instant, je me sens mieux dans quelque chose d'acoustique, quelque chose de mélancolique. Je pense que peut-être ça a aussi changé avec la guerre. Et bien sûr, maintenant, mes racines ukrainiennes m'inspirent beaucoup plus qu'avant. Et j'ai pu découvrir leur richesse. Et je pense que c'est pourquoi j'ai un peu resté dans le style de pop folk et j'y reste pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas retourner à quelque chose comme Non Moderne dans quelques années. On verra.
Est-ce que tu travailles et composes seule ou bien il y a des musiciens qui t'accompagnent ?
Alors, les paroles sont écrites par moi, les parties piano aussi, mais je suis toujours prête à collaborer. Après, tout ce qui concerne les autres instruments, c'est toujours les musiciens. Je travaille avec les violonistes, les guitaristes, donc les vrais musiciens. Et je suis aussi un peu contre l'intelligence artificielle dans la musique qui évolue très rapidement. Donc, je travaille avec les vraies personnes et les vrais musiciens.
L'année de tes 13 ans, celle de ton premier son, c'est aussi celle de l'invasion russe. Les combats débutent en Ukraine dès 2022. Comment s'est passé ton départ ? Est-ce que tu peux me raconter ?
Alors, je viens de Kharkiv, donc c'est vraiment très à l'est. C'est de 30 km de la frontière avec la Russie, donc ça a commencé avec nous. Et j'ai dû partir des premiers jours. J'ai passé quelques semaines à l'ouest de l'Ukraine en attendant quelques membres de ma famille, surtout mes cousines qui avaient 5 et 8 ans à ce moment-là. Elles ne pouvaient pas nous rejoindre. Et puis, je suis venue en France qui était un peu dans le flou parce que je ne savais pas vraiment pourquoi je suis là et je ne parlais pas vraiment français à ce moment-là. Donc, c'était très bizarre. Mais je pense que quand les gens me demandent pourquoi je suis venue en France, il y a bien sûr des raisons, mais je pense que c'est la peur qui nous fait faire des décisions qui peuvent nous sauver la vie. Et c'était, je pense, que la raison première.
Et dès ton arrivée en France, tu as immédiatement repris la musique ou alors tu as eu besoin de temps pour découvrir ce nouveau pays ?
Bien sûr, j'ai eu besoin de temps pour le découvrir. Je découvre la France encore. Je suis à Paris depuis pas très longtemps. Je suis ici pour mes études. J'ai continué à jouer du piano et à chanter, par exemple, en faisant des cours avec mes professeurs ukrainiens, avec qui je travaille encore. Et puis, déjà en 2022, j'ai sorti ma première chanson en qui a été enregistrée en France. Elle s'appelle Running Home. Et c'est un peu le prequel de Winter Song qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Et c'est le seul écrit à la fois en ukrainien et en anglais, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le cas de tes autres musiques ?
J'écris principalement en anglais. C'est aussi une des langues que j'aime beaucoup. J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 5 ans. Mais je pense que je vais continuer à aussi expérimenter avec les langues. J'ai une chanson qui est un petit peu en français, même si j'ai un accent très fort, j'ai un accent slave qui s'entend beaucoup.
Une prononciation parfaite.
Merci beaucoup. Et c'est la chanson « I won't cry if you go ». Le titre est là en anglais, mais il y a une partie que je chante en français aussi.
Et qu'est-ce qu'il symbolise pour toi, ce premier son, cette première musique que tu as écrite en France ? De quoi est-ce que ça parle ?
En fait, c'était aussi une période assez difficile parce que même si j'étais une adolescente pendant la guerre, j'étais quand même adolescente. Donc il y avait aussi des périodes d'adolescent que je devais vivre. Et c'était la chanson qui est aussi beaucoup plus moderne que Pop Folk que je fais maintenant. Donc ça revient un petit peu à non moderne. Et je pense que le fait de chanter un petit peu en français m'a aidé de aussi battre mon peur de français, de ma prononciation et de mon accent. Parce que j'ai beaucoup entendu parler et dire qu'il était très fort. Donc c'était un peu une révolte contre tous les commentaires à propos de mon accent, mais aussi peut-être une possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, parce que j'essayais d'apprendre de nouvelles choses toujours et expérimenter avec elles.
Et justement, est-ce que cet exil en France a changé ta façon d'écrire et de composer ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ?
Certainement. Déjà, je pense que j'ai beaucoup amélioré dans l'écriture des chansons, surtout que maintenant j'apprends littérature anglaise à la Sorbonne et ça m'aide parce que j'apprends de la poésie. Et je pense que l'expérience, en fait, de vivre tout ce que j'ai vécu, ça ajoute toujours une dimension plus profonde à mes chansons et plus de sens. Par exemple, j'ai écrit mon premier mini-album, Future of the Past, qui a été enregistré en France, mais il a été écrit en Ukraine. Et en fait, j'ai pu plus comprendre mes chansons déjà en les enregistrant en France après avoir vécu le début de la guerre que quand je les ai écrits.
Est-ce que, à tout hasard, justement, tu as d'autres projets d'albums ou des titres qui vont sortir ?
Alors, oui, c'était un peu une surprise, mais je vais vous dire. J'ai commencé à collaborer avec un chanteur français qui s'appelle Paul-Michel Manandiz, qui vit en Ukraine depuis 10 ans et qui adore l'Ukraine. Et on va.
Réside actuellement ?
Oui, okay. il est resté en Ukraine. Il fait beaucoup pour la culture ukrainienne. Il a des albums. Il a appris l'ukrainien, il parle mieux que certains ukrainiens. Vraiment. Et en fait, on va collaborer sur une chanson traditionnelle ukrainienne que je vais chanter en français et lui, il va chanter en ukrainien.
D'accord. Et on pourrait éventuellement vous voir vous produire sur scène ou alors vous retrouver sur les plateformes de streaming ?
Certainement sur les plateformes de streaming comme d'habitude, et j'espère qu'on va aussi montrer cette chanson sur scène. J'espère.
Pour te retrouver, c'est bien Miss Ardere ?
Oui, c'est Miss Ardere, M-I-S-S-A-R-D-E-R-E, partout sur toutes les plateformes.
Eh bien, c'est noté et c'est notre recommandation musicale du jour. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Merci d'être venue jusqu'à Radio Campus Paris. Et tout de suite, on va se laisser avec une de tes chansons. Du coup, on va écouter White Winter Song de Miss Ardere.
Snow is falling in my homeland, but there is only rain where I'm now. Looking around, but I cannot see any fantasy that they wait on every time. Breaking parts in my heart is quietly aching. Who do I listen to?
Teresa, making spells to protect myself from the memories. Why does the festive wine taste so sour? But I'm walking through in the hazy way, and you make pain fade with your eyes. I'm still that girl from 61023. In my head I celebrate, and parts in my heart is quietly aching. Who do I listen to when the winter time comes? Fire and trees are making spells to protect myself from the memories. Why does the festive wine taste so sour?
D'écouter Winter Song de Miss Ardéré. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Julie.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Ça y est, c'est le printemps. Il fait beau depuis un certain temps déjà. Plus de soleil, il fait plus chaud, il fait nuit plus tard. Mais surtout, ce qui caractérise le printemps, ce sont ses fleurs. Nous n'avions que les jonquilles en février. Et ça y est, en cette fin de mois de mars, nous avons tulipes, anémones, magnolia et cerisiers en fleurs. Alors ce week-end, je me suis baladée dans le jardin des plantes. Une fois le samedi, puis j'y suis retournée le dimanche tellement c'était beau. Et comme les noms des plantes étaient écrites, j'ai appris que je me baladais entre les pensées de jardin et œillets du poète. C'est beau. Les jardiniers avaient fait un tel travail qu'il y avait une explosion de couleurs parfaitement maîtrisée. Du jaune, orange, rouge en feu d'artifice, du rose, du blanc, qui explosaient de manière calculée. Des allées entières de fleurs en parterre. Autant de couleurs, c'était magnifique. J'étais ébahie. Et les allées étaient bondées de promeneurs aussi ébahis que moi. Comment je le sais qu'ils étaient ébahis ? Eh bien c'est simple, parce qu'ils les prenaient en photo. Tous. Ces grandes allées de 1000 couleurs étaient somptueuses et la conséquence presque instantanée de ce spectacle était de les photographier. C'était presque automatique. C'est beau, photo. C'est chic, un clic. Oh là là, caméra, c'est incroyable, mon portable. C'est devenu évident, instantané, presque un réflexe. Si on trouve quelque chose de beau, on veut l'enregistrer. La relation de cause à effet n'est même pas interrogée, alors que franchement, de faire ça, c'est récent à l'échelle de l'histoire, et puis c'est bizarre. Pourquoi, quand on a un si beau spectacle sous les yeux, on veut absolument mettre son portable devant, comme une barrière entre la chose qu'on admire et nous. Comme si c'était une loupe, on regarde le monde à travers son prisme. Il faut presque se forcer pour admirer un paysage sans le prendre en photo. On veut enregistrer la beauté, la capturer, l'archiver, presque la posséder. Tenir l'émerveillement bien au chaud dans sa poche. On pourrait me dire, c'est pour la partager, l'envoyer à nos êtres chers pour partager ce moment avec eux. Et je dois l'avouer, samedi, devant ces fleurs, moi aussi, j'en ai pris une de photo. Voilà. J'avoue, je plaide coupable. Même en m'y forçant, en luttant contre mes pulsions, je n'ai pas réussi à lutter contre cet appel de la photo. Et je me suis rassurée comme ça. C'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père. Pour mon papé, c'est louable, je pense à lui et lui partage mon quotidien. Mais mon grand-père, chez lui, il a un jardin. Il cultive ses fleurs et les admire dans la vraie vie. Alors non, il ne verra pas les grands parterres du jardin des plantes, mais je pense qu'une tulipe dans sa campagne est plus belle à regarder en vrai qu'une image sur un écran interposé. Alors pourquoi ce réflexe ? Prendre tout en photo dès qu'on trouve quelque chose de beau. On ne l'admire plus par nos yeux, mais par la caméra arrière de notre téléphone. Et parfois, on passe même plus de temps à faire une belle photo qu'à admirer chaque détail de ce qu'on prend en photo. C'est absurde. Surtout qu'on a tous la même photo, la même vue du même endroit. Mais celle-là précisément, c'est nous qui l'avons faite. On se remet au cœur du sujet. T'as vu ma photo ? C'est moi qui l'ai faite. Et ouais, t'as vu toutes ces couleurs, cette classe ? Eh ben, c'est le travail de Bibi. On devient auteur de la photo. On se remet au cœur du sujet. On se veut créateur de la beauté. Que c'est un peu grâce à nous. Alors qu'en vrai, pas du tout. On veut pouvoir montrer tout ce qu'on a vécu en une seconde. Mais on oublie qu'on est capable de raconter, de décrire, de retranscrire, de faire rêver son auditoire. Mais pour ça, il faut avoir pris le temps d'observer. Alors, partageons des moments, mais avec ceux qui sont à côté de nous. Admirons, dans l'instant, ensemble, plutôt que de vouloir prendre en photo pour être nostalgique, plus tard. Vivez l'instant. Contempler, admirer. C'est le printemps, il faut en profiter.
Eh ben, merci beaucoup Julie pour cette chronique et on est bien d'accord, moi je suis bien d'accord, il faut en profiter et il faut profiter de ces jolies matinales de Radio Campus Paris. Mais c'est déjà la fin de la matinale, oh là là, mon temps passe si vite. Cette matinale était en compagnie de Alice pour l'interview et de son invité Benoît de l'Étoile qui était directeur du Quai Branly. Lia pour le Zoom, merci à toi et à ton invité Mess Ardéré. Merci à Tom pour le Flash Info, merci à Grégory et à Julie pour leur belle chronique. Merci à Joey à la réalisation, c'était moi-même Diane pour l'animation. Merci également et un énorme shout-out à Jeanne et à Aude, les meilleurs de la coordination. Toute l'équipe de la matinale vous retrouve demain, même heure, et tout de suite c'est à Contre-Taf, l'émission qui explore les blocages du monde du travail et leurs solutions. Et moi je vous dis à bientôt sur Radio Campus Paris.